Alors, bonjour à tous. Voici donc le premier cours de sociologie des rapports sociaux de sexe. Je m'appelle Isabelle Danick, je suis maître de conférence de sociologie dans le département de sociologie à Rennes 2. Donc, on va avoir une première séance durant laquelle je vais d'abord vous présenter le cours, à la suite de quoi on verra ce que sont les rapports sociaux et puis on zoomera ensuite sur les rapports sociaux de sexe, hein, puisque ce sera le propos de cet enseignement. Alors, c'est un cours dispensé en 6 séances. Voilà, bon, pour les étudiants du Suède, les dates vous importent peu. En tout cas, vous serez évalué de la même façon que les dispensés, les assidus, à savoir, il y a deux écrits qui sont tirés au sort parmi les quatre spécialités, les quatre enseignements de spécialité. Et donc, vous n'aurez pas nécessairement un écrit sur ce cours, hein, seulement s'il est tiré au sort. Donc, vous le saurez juste avant l'examen. Donc, il faut travailler vos quatre spécialités, hein, de toute façon. Alors, le cours Sociologie des rapports sociaux de sexe va traiter de questions que je vous ai indiquées ici sur la diapo. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle les rapports sociaux de sexe? Et puis ensuite, l'idée est d'essayer de cerner comment le sexe des individus pèse sur les phénomènes sociaux. Et puis l'on verra quels rapports sociaux existent, hein, dans la société française contemporaine. Alors d'abord dans l'institution familiale, puis dans la sphère du travail, et puis si on a le temps, mais j'en doute, hein, dans l'institution scolaire et dans la sphère politique. Alors en bibliographie, je vous ai mis des éléments complémentaires à ce qui apparaît dans le livret de licence. Hein, donc de la même façon d'ailleurs, la présentation est plus précise, hein, dans le petit livret. Alors concernant la bibliographie, je me suis aperçue que les références étaient assez pointues, assez précises. Hein, et là, il me semblait intéressant de vous donner aussi des références plus généralistes. Donc, Marie Buscato a écrit Sociologie du genre en 2014. Donc, c'est tout à fait accessible à des licences 3. Ça ne devrait pas poser de soucis de lecture, de compréhension. Donc, voilà, c'est assez large. Hein, ça couvre différents champs sociaux. Marie Durubella, L'école des filles, quelle formation pour quels rôles sociaux? A publié donc cet ouvrage assez centré sur la scolarisation, mais prend en compte aussi la socialisation de façon plus large, la socialisation genrée, notamment dans la sphère familiale. Donc voilà, là aussi je vous conseille, hein, c'est un peu plus resserré que l'ouvrage précédent, mais tout à fait intéressant. Et puis enfin, dans les ouvrages un peu généraux, Christine Guillonnet et Éric Neveu ont écrit Féminin masculin, sociologie du genre. Et donc là encore, on a une vision un peu panoramique, hein, des travaux qui existent dans cette nouvelle spécialité. Alors, première question d'importance, hein, que l'on va devoir élucider, qu'est-ce que l'on nomme des rapports sociaux? Hein, alors, clairement, les rapports sociaux, la notion de rapports sociaux renvoie à l'idée de structuration sociale. Alors, dans le propos que je vais développer, je vais me référer en particulier à Pierre-Jean Simon. Et vous pouvez retrouver pour partie ce que je vous expose là dans un article intitulé Différenciation et hiérarchisation sociale dans une revue intitulée Les Cahiers du CERIEM. Et c'est un article qui a été publié en 1997. Alors, qu'est-ce qu'on nomme structure sociale, hein, et Clairement, en sociologie, c'est une notion très fréquemment utilisée, hein, et cela renvoie à la constitution de structures sociales. Ici, je vous ai mis deux citations de sociologues reconnus, de la façon dont ils comprennent, hein, cette notion de structure sociale. La première est de Bourdieu, ça sort d'un ouvrage intitulé Choses dites. Et donc je vous la lis. Il existe des structures objectives, indépendantes de la conscience et de la volonté des agents, qui sont capables d'orienter et de contraindre leurs pratiques ou leurs représentations. Autrement dit, hein, il y a l'idée de quelque chose extérieur, hein, aux individus qui pèse, hein, sur la façon dont ils vont agir, dont ils vont penser. L'autre définition est celle de Giddens, Anthony Giddens, dans un ouvrage La constitution de la société. Je vous la lis. Les propriétés structurelles des systèmes sociaux sont à la fois des conditions et des résultats des activités accomplies par les acteurs qui font partie de ces systèmes. Donc là, ce qui me semble intéressant dans cette définition de Giddens, c'est que on voit d'où viennent ces structures sociales. Puisque, nous dit Giddens, hein, c'est le résultat des actions, hein, des interactions des acteurs qui vont se cristalliser en structures, hein, et à la suite, ces structures vont à leur tour orienter, conditionner les activités, les relations des acteurs. Donc voilà, quelque chose de circulaire, hein, selon Giddens, entre la structuration sociale et l'action des individus. Alors, si on en revient au processus de structuration, hein, auquel participent les rapports sociaux, on peut dire que le processus de structuration sociale se réalise à travers des sous-processus en quelque sorte, hein, de différenciation et de hiérarchisation. On va développer, hein, ne vous inquiétez pas, pour que vous compreniez. On a de façon très ordinaire, quotidienne, permanente, des catégorisations qui opèrent, des classements qui se font par les individus et cela sur plusieurs critères, les principaux étant le critère d'âge, le critère de sexe, le critère de place dans le processus de production et enfin le critère d'origine ethnique, hein, qu'elle soit réelle ou supposée. Et ces catégorisations, ces classements vont donner à chacun une place sociale, une position. Autrement dit, hein, selon la façon dont vous êtes classé, de par votre âge, votre sexe, votre place dans le processus de production, votre origine ethnique, hein, vous allez avoir un statut social. Et de façon corrélée, un rôle ou des rôles, une identité sociale. Et ces statuts, ces fonctions, ces rôles vont définir un accès au pouvoir, au prestige, aux richesses. Autrement dit, hein, il existe un ordre social qui affecte les individus à différentes places, à différentes positions sociales, hein, dans lesquelles on n'a pas le même statut et on n'a pas le même accès ni au pouvoir, ni aux richesses. Alors, c'est processus de différenciation et de hiérarchisation, hein, se réalise simultanément, c'est-à-dire que il n'y a pas des différences, hein, qui préexisteraient sur lesquelles ensuite viendrait se développer une hiérarchisation. Pierre-Jean Simon explique que en fait, c'est la hiérarchisation qui va sélectionner et manipuler certaines différences, voire éventuellement les créer, hein, pour justifier justement cette hiérarchie. Ces classements, nous dit encore le même auteur, sont généralement légitimés par des pensées naturalistes ou providentialistes. Autrement dit, on va alléguer hein, ou bien de la nature ou bien d'un dieu pour justifier ces classements. Hein. Autrement dit, c'est cette différenciation, hiérarchisation. Là, je vous ai mis une citation de Pierre-Jean Simon que je vais vous lire. Ainsi, l'ordre social, qui est d'abord l'ordre des classements sociaux, des différences manipulées ou inventées et des hiérarchisations, et des hiérarchies imposées, ne tient-il que par la croyance en lui des acteurs sociaux et leur soumission et obéissance à l'univers des règles, au monde artificiel des lois, des coutumes, des conventions, des habitudes que constitue toute société. Autrement dit, hein, c'est parce que on y croit hein, que on va accepter hein, la position sociale qui nous est conférée, l'ordre social dans son ensemble hein, dans lequel on s'inscrit. Et on va y croire en considérant que voilà, c'est la nature hein, qui a décidé hein, de notre place, ou bien pour d'autres, hein, le Dieu qui a défini la place qui était la nôtre, que ce soit la distinction d'âge, de sexe, de classe sociale ou de catégorie ethnique, hein, on va envisager que c'est la nature ou c'est Dieu qui nous place ainsi dans l'univers, hein, à une position spécifique. Du coup, hein, cette justification, elle vient induire l'acceptation et la soumission à cet ordre social. Ça peut évoquer aussi ce que Bourdieu appelle la violence symbolique, hein, qui désigne le processus par lequel les individus dominés vont adhérer aux représentations des dominants, aux croyances des dominants, et de cette façon, hein, vont accepter, intérioriser hein, le bien fondé de leur domination. Alors, nous dit Pierre-Jean Simon, hein, c'est vrai que globalement, ces classements sont acceptés hein, et du fait de leur justification. Mais dans certaines conditions, ces classements vont être contestés. C'est quelque chose que l'on voit tout au fil de l'histoire, hein, de façon très massive et fréquente. Pensez par exemple au mouvement d'indépendance, hein, au mouvement de décolonisation, durant lesquels les moins bien placés, hein, à savoir donc les colonisés, ont combattu pour changer ce classement. Et on peut dire hein, que c'est quand même les moins mal placés des mal placés, donc souvent des colonisés qui avaient fait des études par exemple, qui avaient éventuellement eu l'occasion de sortir hein, de leur univers de colonisation, qui avaient la capacité de penser autrement la réalité et de définir un autre développement possible, hein, et donc un autre classement possible des membres de de leur société. Ça, c'est un premier exemple, hein. Pensez à mai 68, ou la fin des années 68 de façon plus large, hein, où les jeunes font partie des mal classés dans notre société française, et vont se soulever hein, pour montrer que voilà, ils n'acceptent pas la position qui leur est faite, hein, et veulent du changement hein, dans la société, mais aussi dans la place qui leur est accordée. C'est aussi le cas des femmes qui, fin des années 60, années 70, hein, si on parle de la France, vont se mobiliser fortement pour, là encore, contester hein, la place qui leur est faite. Hein, voilà, je ne sais pas si j'ai couvert les quatre critères, mais en tout cas, on peut voir que une grande part hein, de l'histoire des soulèvements sont liées à une contestation hein, de ces classements et donc une remise en cause de la différenciation et surtout de la hiérarchisation qui se réalise. Pierre-Jean Simon nous dit qu'une grande part de l'histoire est l'histoire de la lutte des classements sociaux. Alors, si j'en reviens aux rapports sociaux de sexe, hein, puisque là je vous parlais des rapports sociaux de façon générale, hein, qui voilà, traversent la société, si j'en viens aux rapports sociaux de sexe, hein, cela désigne la différenciation et la hiérarchisation de sexe, hein, dans nos sociétés. Et donc ces processus-là participent bien, hein, de la structuration sociale. Il y a à la fois un processus qui différencie les hommes des femmes et simultanément une hiérarchisation, hein, entre hommes et femmes. La première, sans doute, à pointer ce phénomène est la philosophe Simone de Beauvoir. Dans un ouvrage qui s'appelle « Le deuxième sexe », qui a été publié en 1949, cet ouvrage va avoir véritablement un très grand poids, hein, dans la réflexion des relations entre hommes et femmes et plus largement des rapports sociaux de sexe, puisqu'elle est sans doute la première à avoir analysé, hein, véritablement cette hiérarchisation entre hommes et femmes comme une hiérarchisation fondée socialement. Autrement dit, une hiérarchisation qui n'est pas liée à la nature, hein, la nature masculine ou la nature féminine, ni non plus à un ordre divin, hein, voulu par la Providence. Elle ramène cela à des processus sociaux. Et on a retenu une phrase, hein, qui est devenue célèbre depuis, « On ne naît pas femme, on le devient », hein, ce qui signifie bien que ça n'est pas une différence naturelle, hein, qui existe entre hommes et femmes, mais c'est socialement que hommes et femmes vont être différenciés pour être hiérarchisés. Voilà ce que développe Simone de Beauvoir, hein, dans un travail tout à fait précurseur, hein, par rapport à l'état voilà, des sciences sociales et humaines d'ailleurs de l'époque, hein, voilà, en grande part, hein, parmi les sociologues de l'époque, hein, on avait une approche assez naturaliste, hein, de la différence de sexe. Je vous ai indiqué là deux extraits de cet ouvrage que je vais vous lire. « Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Ce n'est pas l'infériorité des femmes qui a déterminé leur insignifiance historique, c'est leur insignifiance historique qui les a vouées à l'infériorité. » Autrement dit, hein, elle a une lecture très sociologique, hein, du processus de différenciation et de hiérarchisation entre femmes et hommes. Alors, je poursuis. Par le constat que des chercheurs de différentes disciplines, hein, ont voulu... Alors, excusez-moi. Des chercheurs de différentes disciplines ont voulu prendre en compte, hein, cette variable de sexe pour expliquer, comprendre... les réalités sociales et historiques. On peut penser à l'histoire, on peut penser à l'anthropologie, on peut penser à la sociologie. La psychologie a inventé, alors c'est la psychologie américaine première moitié du XXe siècle, qui a inventé la notion de gender pour désigner les flottements à la fois dans les catégorisations de sexe et dans les ressentis identitaires. Les psychologues américains constatent, hein, que parmi leurs patients, existe des individus qui ne parviennent pas à s'identifier au sexe qui leur est attribué et voilà, qui peuvent avoir le sentiment d'appartenir à l'autre sexe, hein, ou qui ont même parfois le sentiment d'appartenir à aucune des deux catégories. Et donc cette notion de gender vise justement à prendre en compte, hein, ces décalages entre le sexe biologique et la réalité vécue par les individus. Cette notion va être prise par des chercheurs de sciences humaines et sociales, souvent d'ailleurs des femmes, hein, mais pas seulement, pour distinguer le sexe biologique et le sexe construit socialement. Hein, donc ce dont parlait Simone de Beauvoir en disant « on ne naît pas femme, on le devient ». Et donc, en français, hein, cette notion a été traduite par « genre hein, », et c'est bien cela que cela signifie. Autrement dit, hein, on va distinguer, alors à partir des années 50-60, hein, pour ce qui concerne les États-Unis, et plutôt 60-70 pour ce qui concerne la France, on va distinguer entre sexe biologique, sexe social, ce qu'on appelle aussi le genre, hein, le genre c'est le sexe social, qui sont aussi à désigner, hein, à différencier de l'orientation sexuelle. Alors, le sexe biologique, hein, ça renvoie au constat que effectivement dans l'humanité, il existe des mâles et des femelles, hein, et c'est ce que l'on peut désigner par sexe biologique. En anglais, hein, c'est un usage assez courant, hein, que de parler de male ou de female, voilà, pour désigner des individus. Bon, en français, c'est pas très usuel, hein, de parler de mâle et de femelle pour les humains, mais c'est cependant très utile, hein, pour distinguer des hommes et des femmes. Hein, et donc je propose de conserver la notion de homme et de femme pour désigner le sexe social, hein, autrement dit le genre, la catégorie, hein, dans laquelle les individus se reconnaissent, hein, la catégorie dans laquelle ils se sont construits, hein, qui bien souvent correspond à la catégorie biologique, hein, mais pas nécessairement. Alors, l'orientation sexuelle, hein, c'est encore une autre affaire, hein, puisqu'il n'y a pas de corrélation directe, hein, entre sexe biologique et orientation sexuelle, hein, pas plus d'ailleurs qu'entre sexe social et orientation sexuelle. Alors, concernant le sexe biologique, hein, il est important de savoir que, là, je parle sous le contrôle de biologistes, hein, par des lectures que j'ai pu faire et des échanges que j'ai pu avoir, dans le sens commun, on envisage une catégorisation binaire, hein, des mâles et des femelles. Il est important de savoir que c'est plus complexe, hein, puisque le sexe biologique va englober le sexe anatomique, le sexe chromosomique et le sexe hormonal. Autrement dit, hein, c'est trois dimensions, hein, du sexe biologique. Alors, ces trois dimensions généralement correspondent, c'est-à-dire que les individus vont être anatomiquement, chromosomiquement et hormonalement mâles, ou bien anatomiquement, chromosomiquement et hormonalement femelle. Cependant, hein, il existe des cas où il y a discordance, hein, entre sexe anatomique, sexe chromosomique et sexe hormonal. Et ça, c'est important de le savoir, même si effectivement c'est rare, certes, hein, mais cela existe, hein, et ça explique une partie des difficultés, hein, que l'on peut avoir, que l'on peut rencontrer avec cette catégorisation binaire. Hein. En outre, ce que l'on peut donc englober par sexe biologique, hein, peut être là encore en décalage avec le sexe social, hein, la façon dont un individu s'est socialisé, hein, et l'identité sociale qu'il s'est constituée, on peut avoir, il existe, hein, des individus mâles qui néanmoins se définissent comme femmes, hein, ou inversement, des individus femelles qui néanmoins se définissent comme hommes. Certains théoriciens, hein, vont aussi envisager un sexe psychologique, hein, c'est-à-dire que l'individu, hein, va se penser en tant que homme ou femme, hein, se constituer psychologiquement comme homme ou femme, pas seulement socialement, hein, mais également dans la dimension psychologique. Hein. Ça, c'est quelque chose, voilà, que je ne traiterai pas spécifiquement, hein, que je laisserai aux psychologues, hein, de la même façon que, voilà, pour approfondir les questions biologiques, hein, je vous renvoie davantage vers des travaux de médecins ou de biologistes. Hein. Mais c'est important à savoir pour mieux comprendre cette réalité. Alors, là, ce que je voudrais vous pointer est un argument développé par Goffman, Erving Goffman, dans un ouvrage qui a été traduit assez tardivement, qui s'appelle « Les arrangements entre sexes, entre les sexes ». Et Goffman dit, et à juste titre, hein, que il y a davantage de similarité entre les femelles et les mâles humains que de différences. Hein. Pensez à l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire, hein. C'est exactement similaire. D'ailleurs, on peut faire des greffes, hein, d'un certain nombre d'organes, d'une femelle vers un mâle, hein, ou inversement, d'un mâle vers une femelle. Hein. On peut prendre un rein, on peut prendre un cœur, etc. Il y a, hein, effectivement des différences, hein, qui sont cependant assez limitées, qui concernent l'appareil génital, l'appareil reproducteur. Pour autant, hein, ces différences limitées, nous dit Goffman, vont avoir des conséquences considérables, hein, sur la définition des uns et des autres dans les sociétés, dans les diverses sociétés humaines, avec des statuts, des fonctions, des rôles très distincts, hein, en lien avec cette petite différence biologique. Et cela, effectivement, hein, pose question, hein, comment se fait-il que on a une telle ampleur, hein, de conséquences pour, finalement, des différences naturelles assez circonscrites. On reviendra sur ces aspects. Pour ce qui concerne la France, il faut savoir que cette catégorisation biologique va s'opérer à la maternité, hein, sur la base d'un constat anatomique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de prélèvement sur un bébé, sur un nouveau-né pour savoir quels sont ses chromosomes, hein, on ne va pas non plus faire des mesures hormonales. En fait, c'est le constat visuel, hein, qui amène à considérer que, de par son anatomie, il peut être catégorisé en mâle ou en femelle. Mais cette catégorisation-là, elle s'officialise en fait au service d'état civil, hein, lorsque les parents viennent faire enregistrer la naissance. Et donc, sur la base du constat réalisé à la maternité, on va enregistrer, hein, l'individu comme mâle ou comme femelle. Et on va marquer en quelque sorte, hein, cette catégorisation par le choix du prénom. Hein, la grande part des prénoms sont marqués, hein, soit féminin, soit masculin. Et donc, de cette façon, hein, les parents vont enregistrer, hein, cette affectation, hein, du bébé dans la catégorie mâle ou dans la catégorie femelle. Très généralement, hein, les enfants, les jeunes vont être élevés en fille ou en garçon, hein, en lien avec la catégorisation précédente. Et la plupart vont s'identifier à cette catégorie. Alors, il faut quand même dire qu'un certain nombre de bébés qui naissent sont, d'un point de vue anatomique, ni clairement femelles, ni clairement mâles. Autrement dit, ils ont un petit pénis qui ne permet pas de clairement les catégoriser. Pendant longtemps, les médecins opéraient d'emblée, voilà, pensant bien faire certainement, et donc procédaient à l'ablation de ce petit pénis pour en quelque sorte féminiser complètement le corps du bébé et résoudre en quelque sorte le problème anatomique. Les parents étaient généralement incité à donner un prénom mixte, dans le doute de savoir comment cet individu allait se transformer. Aujourd'hui, on n'opère plus comme ça les nouveau-nés. On laisse l'enfant se développer en le laissant en quelque sorte lui-même se catégoriser au fil de sa croissance. Alors c'est extrêmement compliqué évidemment pour ces individus. Là encore, le conseil qui est donné aux parents, c'est de donner un prénom mixte qui correspond pour le coup à une indétermination biologique des individus qui ne sont pas clairement catégorisables entre mâle et femelle. Alors voilà, c'est très minoritaire, mais véritablement, ce sont des enfants qui vont grandir dans cet entre-deux, avec des périodes où parfois ils vont s'identifier à la catégorie féminine, et puis ensuite davantage se ressentir et se définir comme masculin. Voilà, il y a beaucoup de flottements et de difficultés souvent à se construire une identité dans ces cas-là. Pour autant, la grande part de la population, effectivement, est catégorisée en mâle ou femelle à la naissance, est élevée dans cette idée d'en faire des filles ou d'en faire des garçons, et vont réussir à s'identifier à cette catégorie. Mais voilà, une minorité ne parviennent pas à s'identifier à la catégorie qui leur est assignée. Alors peut-être certains d'ailleurs parce qu'il y a un décalage entre le sexe anatomique et leur sexe hormonal, ou bien entre leur sexe anatomique et leur sexe chromosomique, mais certains sans doute sans particularité, sans décalage biologique, ne parviennent pas à faire coïncider leur sexe social, leur sexe psychologique avec le sexe biologique. Et donc ils vont revendiquer une autre identité de genre, certains allant jusqu'à réaliser une transformation physique par des traitements hormonaux, par des interventions chirurgicales, d'autres sans transformation physique. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on peut changer de sexe à l'état civil. Alors jusqu'au printemps 2016, c'était possible uniquement si une transformation physique était mise en œuvre. Désormais, ça n'est plus une condition nécessaire. Pour autant, ça reste une démarche lourde et compliquée pour les individus concernés. C'est assez difficile. Contrairement à d'autres pays, depuis longtemps déjà, la Norvège, par exemple, autorise les changements d'identité, de sexe, de façon assez simple et rapide, sans censeur extérieur. Là, par exemple, pour ce qui concerne la France, il y a un avis médical, un avis de psychologue qui doit être positif pour que ce changement soit accepté. Et en Norvège, ils ont récemment élargi cette possibilité à tous les individus, quel que soit leur âge. C'est-à-dire qu'un enfant peut désormais demander hein, à être connu comme fille, bien qu'ayant été répertorié mâle à la naissance, hein, ou comme garçon, bien qu'ayant été catégorisé femelle à la naissance. Alors pour les enfants, hein, pour les mineurs, l'autorisation parentale est demandée, mais c'est une possibilité qui est ouverte. Hein. Donc pour vous dire que sur ces questions, les pays sont sur des positions encore extrêmement disparates hein, aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas développer cet aspect-là, mais c'est pas du tout uniformisé dans les prises en charge et les possibilités d'être reconnues hein, selon le genre que l'on souhaite. Alors, si on examine hein, les travaux des anthropologues qui se sont beaucoup intéressés aux différenciations hommes-femmes, on peut dire que ces catégories, hein, hommes et femmes, fondées sur les différences anatomiques, existent dans toutes les sociétés. Hein, ça, clairement. Pour autant, hein, dans un certain nombre de sociétés, y compris des sociétés traditionnelles, étudiées par les anthropologues, il existe une troisième catégorie, hein, qui renvoie à des individus qu'il est difficile en fait de catégoriser dans soit hommes, soit femmes, hein, qui vont donc être dans une troisième catégorie, hein, voilà ce qu'on pourrait appeler transgenre, hein, ici et maintenant, qui évidemment portent d'autres noms selon les sociétés considérées, mais qui sont souvent acceptées socialement. Autre constat des anthropologues, le fait que les fonctions, les rôles masculins d'une part et les rôles, les fonctions féminines d'autre part sont variables d'une société à une autre, d'une époque à une autre. Ils sont les rôles et les fonctions masculins sont différents des rôles et des fonctions féminins, mais cependant, il y a une grande variabilité entre les différentes sociétés. Autrement dit, hein, ça n'est pas naturel. Hein. Dans certaines sociétés, les hommes sont pensés comme ceux qui doivent coudre les vêtements. C'est bizarre pour nous, hein, ici et maintenant, mais par exemple, en Afrique du Nord et d'ailleurs aussi en Afrique noire, hein, les couturiers, ceux qui font profession de couturier, sont très massivement des hommes. Donc c'est juste un petit exemple, mais pour vous faire comprendre que cette bipartition hein, renvoie à des fonctions et des rôles, mais qui ne sont pas similaires dans toutes les sociétés. De la même façon, hein, quand les historiens examinent différentes époques, on voit hein, que les fonctions, les rôles masculins et féminins diffèrent, certes, hein, mais connaissent de grandes variations selon les époques. Alors, je vous donne deux exemples à tirer de l'anthropologie. Les Azandé au Sud-Soudan autorisaient le mariage entre un guerrier et un jeune homme, avec la situation d'une pénurie d'épouses. Et ce jeune homme devait assumer donc le rôle, la fonction, le rôle d'épouse, avec les obligations ménagères et sexuelles, hein, corollaires, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une femme. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est prévu dans le fonctionnement social, hein, qui est codifié et qui est, voilà, normal. Autre exemple, hein, pour vous montrer cette non-naturalité des fonctions et des rôles masculins et féminins, cette fois chez les Inuits, hein, ce que l'on appelait précédemment les Esquimaux, chez les Inuits, on envisage que l'enfant qui naît porte en quelque sorte hein, un ancêtre. Et donc, cet ancêtre qui revit à travers l'enfant va être pris en charge. Hein, et donc, c'est le sexe de celui qui vit dans l'enfant hein, qui va être pris en compte pour traiter hein, cet enfant en fille ou en garçon, indépendamment du fait que cet enfant soit mâle ou femelle. On va prendre en compte hein, le sexe de l'enfant seulement à sa puberté. Donc on va avoir chez les Inuits hein, des enfants mâles qui vont être élevés en fille, hein, si la personne qui revit à travers lui est une femme. Et de la même façon, on va avoir des enfants femelles hein, qui vont être élevées en garçon jusqu'à la puberté si l'individu qui revit à travers elle est un homme. Donc il n'y a pas de il faut dénaturaliser hein, la réalité homme et femme puisque clairement hein, il y a une trop grande variation entre société et entre époques pour que ce soit des réalités naturelles. Je vous donne deux exemples là. Vous voyez, un aristocrate anonyme du XVIIe siècle, hein, qui est non seulement avec une perruque, hein, mais qui est maquillé, poudré, avec du rouge à lèvres, hein, qui a une toilette tout à fait minutieusement établie. Alors c'est sans doute pour la peinture, certes, hein, mais pas seulement. Hein. On sait que à la cour hein, existait une grande coquetterie hein, des hommes avec des chaussures à talons d'ailleurs aussi, voilà, qui ne correspond plus du tout hein, à la définition de l'homme viril hein, que l'on a pu connaître à d'autres époques, hein, mais qui était considéré hein, comme normal au XVIIe siècle dans ce milieu social. Évidemment que dans la population paysanne, on ne s'habillait pas de la sorte hein, et on n'avait pas idée de mettre tant de raffinement et de coquetterie dans sa mise hein, pour un homme. Alors ça c'est une photo qui a été prise en 1907 en France hein, et donc je vous demande, est-ce que votre idée, c'est il s'agit d'une fille ou d'un garçon ? C'est assez difficile, hein, je vous l'accorde, à deviner, même si a priori, hein, on répondrait une fille, et on répondrait à tort une fille, hein, puisqu'évidemment, si je vous la montre, c'est que c'est contre-intuitif, hein, ce petit enfant de 2 ans avec des jolies bouclettes blondes hein, peignées sur le dessus de sa tête et voilà ce qui me semble être une robe est effectivement un garçon qui a un lien d'ailleurs avec Simone de Beauvoir hein, donc voilà, je vous laisse deviner il s'agit effectivement de Sartre hein, à 2 ans. Il a d'ailleurs mis cette photo lui-même dans l'un de ses ouvrages. Bon voilà, il a bien changé en vieillissant, hein. Mais pour vous dire surtout que il est très difficile hein, d'envisager une nature hein, féminine ou une nature masculine parce que de fait, hein, on voit bien que c'est en grande part construit socialement. Alors, il y a un champ de la sociologie hein, qui s'est spécialisé sur ces rapports sociaux de sexe. Voilà, depuis les années 60, hein, on a de façon plus large les sciences humaines et sociales qui vont étudier les phénomènes... jusqu'aux années 60, les sciences humaines et sociales ont étudié les phénomènes à partir des hommes, hein, à partir d'un point de vue masculin, et en prenant en compte hein, les acteurs sociaux hommes, perçus comme voilà, le général, le normal. à cela plusieurs explications, hein, le fait que les chercheurs sont souvent eux-mêmes, ou les savants sont souvent eux-mêmes des hommes, et puis surtout, hein, le rapport de domination qui existe entre les hommes et les femmes, qui font que les femmes sont perçues comme une spécificité, hein, une particularité, voilà, qui ne mérite pas nécessairement d'être étudiée, hein, pour elles-mêmes. En grande part, hein, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'aux années 50-60, les réalités femmes et hommes sont perçues comme des réalités naturelles. Si on pense à Durkheim, par exemple, lorsqu'il a constaté que les hommes et les femmes ne se suicidaient pas de la même façon, à savoir que les femmes faisaient davantage de tentatives de suicide, mais que pour autant les hommes mouraient plus souvent par suicide. Il ne cherche pas d'explication sociale, hein, à cela. Il en attribue l'explication, hein, à la nature, hein, différente, des hommes et des femmes. Juste pour poursuivre sur cet exemple, hein, on a remarqué depuis que les femmes se suicident moins le jour de congé des enfants. Alors donc quand c'était le jeudi, eh bien effectivement les femmes se suicidaient moins le jeudi. Et lorsque c'était le mercredi, lorsque le jour des congés des enfants est passé au mercredi, eh bien également ce jour-là, les femmes se suicident moins. Ce qui montre bien, hein, que, on a là un phénomène tout à fait social, hein, et ce n'est pas par la nature, hein, des unes et des autres que l'on peut expliquer la démarche qu'ils peuvent avoir de mettre fin à leur existence. Alors la dénaturalisation nécessaire, hein, des catégories hommes et femmes a été principalement menée par des chercheurs états-uniennes, et en particulier à la suite du travail de Simone de Beauvoir, qui a été traduit aux États-Unis en 1953. C'est un travail qui a été poursuivi aussi par des chercheurs européennes à partir des années 60. Et alors, beaucoup de femmes, hein, il est vrai, mais aussi, hein, des chercheurs hommes. Je vous en ai cité un seul, là, Pierre Bourdieu a écrit un ouvrage intitulé La domination masculine en 1998. Il a donné d'ailleurs lieu à une polémique, hein, parce que, à sa sortie, un certain nombre de femmes chercheurs, alors des sociologues, mais pas seulement des sociologues, ont expliqué qu'ils ne rendaient pas suffisamment, ils ne montraient pas suffisamment ces emprunts à ses prédécesseurs femmes, hein, qui avaient analysé cette réalité avant lui, et en quelque sorte, ils s'étaient appropriés, hein, des constats, des analyses réalisées par des sociologues femmes, et donc évidemment ça a donné lieu à polémique. Et il y a encore un certain nombre de sociologues, hein, qui lui en tiennent rigueur, hein, de ne pas avoir mentionné correctement les travaux sur lesquels il avait appuyé sa réflexion. Pour autant, ça reste quand même un ouvrage, hein, que vous pouvez lire, hein, de façon intéressante. On a depuis les années 2000 une multiplication, hein, des travaux sur le genre. Bon, voilà, c'est évidemment, hein, le changement de statut des femmes qui explique, hein, le fait que désormais on va s'intéresser à cette réalité. Donc c'est aussi les femmes qui sont moteurs, hein, de cette inflation de travaux. Et aussi le financement public de la recherche, hein, sous l'effet des revendications des femmes, des chercheurs femmes et des femmes dans leur ensemble, hein. On a des politiques publiques qui mettent pour objectif la parité, mais aussi du coup, hein, les politiques qui ont besoin, les décideurs, hein, qui ont besoin de travaux sur la réalité hein, de la situation, des rapports sociaux de sexe dans les différentes sphères sociales. Et donc, des travaux hein, ont été financés sur ces questions de façon importante voilà, depuis les années 2000. Alors, ces travaux sont en grande part inscrits dans nos sociétés postmodernes, ce qui pose évidemment problème puisque c'est sans doute ces sociétés où les rapports sociaux de sexe se sont le plus transformés dans le sens d'une réduction de la hiérarchisation. Donc évidemment qu'on a besoin de travaux dans d'autres types de sociétés, hein, et là, il est clair qu'on en manque. Pour autant, hein, qu'est-ce que ces travaux éclairent dans nos sociétés postmodernes ? Le fait, hein, ce que je viens de vous mentionner, le fait qu'il y a un processus d'égalitarisation hein, qui est à l'œuvre, qui a démarré donc au milieu du XXe siècle hein, et qui se poursuit aujourd'hui, donc il n'est pas terminé. On peut constater une égalité juridique hein, entre les hommes et les femmes. On peut constater également que les fonctions, les rôles sont moins prédéfinis par le sexe. Hein, on va avoir des métiers qui s'ouvrent hein, à l'autre sexe, hein, des métiers perçus comme féminins qui vont s'ouvrir aux hommes, des métiers perçus comme masculins qui vont s'ouvrir aux femmes, même si ça reste minoritaire. Voilà, c'est un phénomène à repérer. Et puis également, alors c'est vrai aussi dans la sphère familiale, hein, où on voit des hommes qui désormais prennent davantage en charge leurs enfants, qui participent aussi aux travaux domestiques, hein, on y reviendra, alors ça reste là encore en petite proportion, en petite part, hein, mais pour autant, hein, ça reste une amorce hein, de changement. Et puis, on peut constater aussi, hein, autre constat de ces travaux récents, le début d'une déconnexion entre sexe biologique et sexe social. Hein. C'est cette notion de genre. Les analyses hein, qui ont été développées de la distinction à faire entre le sexe biologique et le sexe social sont sorties hein, de la petite communauté des spécialistes, hein, des chercheurs, pour se diffuser plus largement. Et voilà, désormais, on commence à voir hein, une reconnaissance de cette analyse hein, au-delà de la sphère des spécialistes. Pour autant, ça reste très controversé, hein, surtout ces dernières années, avec voilà, une espèce de stigmatisation hein, de ce qui est dénommé la théorie du genre. Alors mettez des guillemets parce que ça n'existe pas, la théorie du genre. Hein. Le genre est un concept qui renvoie donc à cette réalité du sexe social. Pour autant, il existe différentes analyses hein, du genre, du sexe social. C'est pas du tout un champ théorique uniforme. C'est pas non plus un champ militant. Hein, les chercheurs qui proposent ce concept de genre hein, ou ce concept de sexe social n'ont pas des visées partagées hein, de ce qui est souhaitable comme transformation sociale. Donc voilà, c'est un mauvais procès qui est fait à des fins politiciennes hein, vis-à-vis du monde de la recherche. Sachez qu'il y a des sociologues qui n'utilisent pas le terme de genre, le concept de genre, parce qu'il ne leur convient pas, qui vont traiter des rapports sociaux de sexe ou qui vont utiliser la notion de sexe social. Hein, donc voilà, il y a une espèce de fétichisation et de, et de mauvaise foi hein, autour de cette, de ce concept, une mauvaise vulgarisation, je ne sais pas très bien comment il faut le dire, hein, voilà, avec des manipulations à la fois idéologiques et politiques sur ces questions. Donc on va essayer d'en rester à l'écart hein, dans ce cours où je vous rapporte hein, de façon très plate et dépassionnée les constats qui, et les résultats, les analyses hein, qui sont réalisées par la sociologie et de façon plus large par les sciences humaines et sociales sur ces questions. Voilà. Alors, si j'en reviens à ces travaux sur le genre qui ont donc beaucoup augmenté depuis les années 2000, hein, on voit que ces travaux insistent hein, sur le fait que la différenciation, la hiérarchisation perdure hein, entre hommes et femmes. Autrement dit, hein, ces analyses souvent pointent le fait que il existe encore un rapport de domination hein, dans nos sociétés postmodernes entre hommes et femmes. Pour le dire encore autrement, l'égalité juridique hein, qui est acquise désormais entre hommes et femmes dans nos sociétés ne se traduit pas par une réelle égalité de fait entre femmes et hommes. On le verra dans les séances ultérieures. Et donc cela est généralement analysé, décortiqué de façon fine hein, par différents travaux. Du coup, il me semble qu'on a du mal à voir le changement, puisque, à mon sens, hein, et là je m'appuie aussi évidemment sur d'autres travaux, il existe une transformation, hein, une évolution réelle de la différenciation et de la hiérarchisation. Ça se transforme, la hiérarchisation s'affaiblit dans nos sociétés. Alors, effectivement, on est très loin encore d'une situation d'égalité. Hein, pensez aux différences de salaire, pensez à la répartition du travail domestique. Hein, bon, c'est des aspects sur lesquels on reviendra. Mais clairement, la nouveauté, c'est que désormais, la grande part des femmes, en particulier en France, travaillent avec un taux d'activité similaire, la proportion de femmes à travailler hein, est similaire à celle des hommes. Hein. Ça, c'est une nouveauté comparée à la première moitié du XXe. Si on remonte plus haut, hein, il y a l'esprit quand même que les femmes ont toujours travaillé. Mais ce que je veux signifier, hein, c'est que en focalisant sur les rapports de domination qui perdurent, on manque souvent, dans un certain nombre de ces travaux, la saisie des transformations récentes, hein, tant de la différenciation que de la hiérarchisation entre hommes et femmes. Donc on essaiera d'être assez nuancé hein, dans ce qu'on va exposer durant ce cours. Ah, alors voilà, on a fini cette première séance hein, et donc on se retrouvera pour le cours numéro 2 dans lequel on va traiter des rapports sociaux de sexe dans l'institution familiale. Voilà, je vous remercie et je vous incite à aller lire également les travaux dont je vous ai mis les références à la fois dans le livret et sur les premières diapos de ce cours.
Thank you.